Vous êtes sur RTL.
Il est 12h30.
RTL.
Au début, j'ai cru que c'était des hallucinations temporaires, mais ça fait des mois que ça dure et c'est de pire en pire.
Vous allez devoir accepter de le laisser partir. Il n'est plus là.
Tu dois pas être au courant.
Tu sais que je t'entends, là.
Le journal inattendu.
En fait, tu vois, je crois que j'étais trop présent avec toi.
Mais trop présent, certainement pas. T'étais jamais là. Tu me voyais pas. Tu m'as jamais fait faire de boire.
Ne t'interdis rien. Fais tout ce qui permet de te sentir vivant.
12h30, 13h30.
Mais c'est quoi ces conneries? Pas question que je joue dans votre show.
J'ai envoyé plus de tant de types. En enfer, au paradis, ça m'a jamais fait sourire. Alors laisse-moi faire mon boulot et avoir la gueule que je veux, compris?
François Berléand est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Allez, champagne, c'est parti!
Eh oui, c'est parti. Bonjour François Berléand.
Bonjour.
Et merci d'être le rédacteur en chef de Journal Inattendu avant la sortie mercredi de L'Esprit de Famille, un film d'Éric Bénard dans lequel vous êtes mort.
Absolument.
Voilà.
Je suis mort.
C'est une comédie sur le deuil, sur le souvenir, sur la culpabilité, avec à vos côtés Guillaume de Tonquédec, Josiane Balasco, Isabelle Carré, entre autres. On parlera du casting tout à l'heure et de ce film, hein, cet esprit de famille. On parlera de votre carrière. On va écouter votre reportage inattendu sur l'écologie à Paris, la chasse aux voitures, la vision d'Anne Hidalgo d'une ville plus verte. Et puis à 13h, on accueillera votre invité, Dominique Bail de l'association Petit Prince, qui est déjà d'ailleurs parmi nous, je la salue. Alors, je vous dis pas tout parce qu'il faut quand même préserver un peu l'effet de surprise.
Bien sûr.
Mais avant les infos que vous pourrez commenter si vous le voulez, il faut, parce que c'est ainsi dans cette émission, cher François Berléand, vous tirez le portrait.
Voilà. C'est pour ça que je vais parler très lentement, puisque j'ai le droit à une minute,
voilà.
Pas plus.
Vous avez le droit à une minute et vous avez déjà pris 15 bonnes secondes.
C'est pour ça. Je suis né le 22 avril 1952 à Paris. Je suis taureau ascendant scorpion, dragon en signe chinois.
Ouais, oui.
Je suis comédien. Je joue beaucoup de pièces de théâtre et je participe à beaucoup de films. Et je suis très heureux d'être encore en vie, puisque dans le film que j'ai fait, qui va sortir la semaine prochaine, je joue un mort. Donc je m'entraîne, je me suis entraîné à mourir, puisqu'après j'ai même fait une pièce de théâtre dans laquelle je joue aussi un fantôme. Et donc, en l'espace de 8 mois, je n'ai fait qu'interpréter des morts.
Vous êtes mort 2 fois. C'est donc un fantôme qui est avec nous ici même à RTL. Au cinéma, donc dans L'Esprit de Famille, à partir de mercredi sur les écrans. Et puis à partir du 25 février, je le précise, vous serez également au théâtre, mené par le bout du nez par François-Xavier de Maison. Ce sera au théâtre Antoine.
Oui, alors je ne suis pas sûr d'être mené par le bout du nez. Je pense que
c'est vous qui menez.
C'est moi qui mène le débat. François-Xavier de Maison joue un président de la République. Il commence à. Il vient juste d'être élu. Et en répétant son discours, tout à coup, il est pris de tics absolument épouvantables. Et donc, est dépêché en urgence un psychanalyste, psychiatre-psychanalyste, très grand psychiatre-psychanalyste, qui va faire une analyse tenter de faire une analyse en 1h30.
Bon, on en parlera, mais plus tard.
Voilà, plus tard, oui, parce que c'est le film qui.
Voilà, bien sûr, le film. Et puis d'abord, les infos, évidemment.
Et puis surtout les infos.
L'actualité de ce samedi 25 janvier, dominée, vous le savez sans doute, par la détection de 3 cas de coronavirus en France, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. Ils sont tous hospitalisés à l'isolement. Ces 3 personnes avaient séjourné en Chine. On sera à l'hôpital Bichat dans un instant et puis on va voir quelles mesures sont prises par les autorités sanitaires françaises. Sachez qu'en Chine, le bilan est pour l'instant de 41 morts, 1300 personnes contaminées, 56 millions de Chinois sont placés en quarantaine. Notez qu'à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, un hôpital de 1300 lits va être construit en 2 semaines pour accueillir les malades. Toujours aucune nouvelle des 3 Français et de l'Irakien membre de l'organisation SOS Chrétien d'Orient enlevé à Bagdad. Aucune rançon n'a pour l'instant été réclamée. Ils auraient été kidnappés près de l'ambassade de France. Qu'a-t-il pu leur arriver? Quelle est cette ONG française? Élément de réponse à suivre. L'étau se resserre sur Michel Fourniret, 17 ans après la disparition à Guermantes de la petite Estelle Mouzin. Son ex-épouse Monique Olivier assure que selon elle, c'est bien lui qui a tué la fillette. Le football, match nul hier soir entre Nice et Rennes, un partout. À 17h30 cet après-midi, Marseille-Angers. Et puis en en tennis. Gaël Monfils est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Ce sera dur face à l'Autrichien Dominique Thiem, numéro 5 mondial. Parlons du temps, Valérie Quintin.
Oui.
Fait toujours aussi froid.
Oui, fait toujours aussi froid, aucun doute là-dessus. On a pourtant du beau temps quand même qui s'est installé sur le pays cet après-midi. Alors pour la moitié sud, il y a un petit peu d'instabilité quand même en Languedoc et dans le sud du Massif central. Il va pleuvoir pratiquement toute la journée, mais pas de fortes pluies sur la moitié nord. Alors voilà, on est tributaire de la grisaille et des nuages bas du matin. Par endroits, ça se lève, par endroits, pas. C'est très, très difficile pour le coup à prévoir. Alors c'est fait, ça s'est bien levé en Alsace, en Lorraine aussi. C'est un peu plus laborieux sur le nord, la Picardie ou encore la Normandie et la Bretagne. En Île-de-France, c'est moitié-moitié. Dans le sud de l'Île-de-France, ça reste chargé. À l'ouest, ça se dégage. Donc voilà. Pour les autres, c'est quand même des éclaircies avec des températures qui volent pas très haut. 5 à Lille maximum cet après-midi, 7 à Paris, 8 à Rouen, à Lyon et à Colmar, 10 degrés sur Nantes, 13 à Toulouse et Bordeaux, 14 à Nice et 16 à Ajaccio.
Et vous avez noté, François Berléand, qu'à RTL, quand on donne la météo, on a un costume adapté et que donc quand il fait froid, Valérie Quintin porte des mitaines.
Voilà, des mitaines. Je ne pensais pas que ça existait encore.
Si, parce qu'on peut écrire en même temps.
Voilà, et qui fait froid dans son bureau. Et à 13h, sans mitaines, c'est vous qui serez monsieur météo. On a tout prévu.
Ah d'accord, très bien.
On
d'accord.
A tout prévu.
Donc c'est la même météo, grosso modo.
Voilà.
Oui, c'est la même chose.
Il suffit de mettre les mitaines.
Le journal inattendu sur RTL.
Le ministère de la Santé a donc annoncé 3 cas de coronavirus confirmés en France, les premiers pour l'Europe. L'un à Bordeaux, les deux autres à Paris. À Paris, deux membres d'une même famille. Alors il est demandé aux malades potentiel d'appeler le 15, de ne surtout pas se rendre aux urgences pour éviter bien sûr toute propagation de l'épidémie. Ces 3 patients hospitalisés ont tous été placés à l'isolement. 2 d'entre eux à l'hôpital Bichat, donc à Paris, où vous vous trouvez, Vincent Serrano.
Oui, où 2 proches parents sont hospitalisés dans ce que l'on appelle une chambre à pression négative. Il y en a 7 ici, des chambres qui empêchent tout contact avec l'air extérieur. Seuls les médecins, les infirmiers spécialement formés au contact des maladies infectieuses peuvent y entrer et une fois à l'intérieur, tout est fait pour garantir leur sécurité et surtout pour éviter que le virus ne s'échappe. Les portes s'ouvrent toutes seules à l'aide de capteurs optiques, pas de contact avec les mains. Il faut ensuite passer 2 sas pour arriver jusqu'au patient. Le premier pour s'habiller, blouse, masque et gants de protection et le dernier pour la préparation des soins. Autre précaution, l'hôpital Bichat propose depuis ce matin aux visiteurs qui le souhaitent de porter un masque avant d'entrer dans l'établissement. Les autorités de santé continuent leur enquête sur l'entourage de ces 2 patients et invitent ceux qui présentent des symptômes du coronavirus à ne surtout pas se rendre aux urgences mais appeler le 15 pour être pris en charge rapidement.
Vincent Serrano à l'hôpital Bichat à Paris où sont donc hospitalisés 2 des 3 cas recensés. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, souligne qu'il s'agit des premiers cas en Europe, probablement, selon elle, parce que la France a mis au point le test très rapidement et que nous sommes capables d'identifier le virus. En tout cas, ce matin, les festivités du Nouvel An chinois ont été annulées à Bordeaux en raison de ce cas avéré dans la ville. Virginie Garin, vous avez des nouvelles récentes de ces 3 malades et elles sont rassurantes.
Oui, ils vont bien, selon le ministère de la Santé. Ils vont rester hospitalisés jusqu'à la disparition complète du virus. Alors, ça permet d'ailleurs aux médecins français de mieux connaître la maladie, de savoir en combien de temps elle se guérit, car les malades guérissent dans plus de 95% des cas. Alors, concernant le patient de Bordeaux, un homme arrivé de Chine mercredi, le maire de la ville, Nicolas Florian, a donné des nouvelles ce matin à Patrick Hisson.
Moi, j'ai des nouvelles rassurantes. Il a été pris en charge par l'hôpital et on a la chance d'avoir un des services les plus performants sur toutes ces maladies infectieuses avec le professeur Marly.
Vous avez eu des nouvelles d'un proche ?
Oui.
Qui vous a dit quoi ?
Et que la personne était quand même sous le choc, hein, mais que voilà, elle était bien prise en main, donc c'était rassurant.
Alors, autre information, les 3 cas confirmés en France sont passés par la ville de Wuhan en Chine.
Et quelles sont les mesures prises par les autorités sanitaires ?
Eh bien, elles sont en train de remonter jusqu'aux personnes qui auraient pu croiser les malades de près depuis leur arrivée en France. C'est un travail d'enquête d'épidémiologistes formés pour ça. Alors, le malade de Bordeaux aurait croisé 10 de personnes. Elles ont toutes été contactées et quand on les retrouve, on leur donne les consignes d'usage. Quand on se sent malade, surtout ne pas sortir, on les répète, mais c'est important, il faut appeler le centre 15, tout en évitant quand même de submerger les centres d'urgence pour rien. Il faut appeler uniquement quand on a les symptômes, toux, fièvre et surtout une gêne pour respirer.
Virginie Garin, voilà donc pour la situation en France, mais de nombreux pays sont maintenant touchés. 3 cas aux États-Unis, 4 en Australie, 2 en Corée du Sud, 3 au Japon. En Chine, je vous rappelle qu'on compte 41 morts, 1300 cas recensés. La Chine, où un deuxième hôpital va être spécialement construit en 2 semaines seulement, dans la ville de Wuhan, l'épicentre du virus. Il sera doté de 1300 lits. L'armée est mise à contribution, 450 médecins militaires dépêchés sur place et 56 millions d'habitants placés en quarantaine avec des mesures de dépistage obligatoires dans les trains, les bus et les avions sur tout le territoire chinois. C'est un vrai scénario de film catastrophe.
Ah non, mais totalement, oui, totalement. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est la rapidité avec laquelle on peut construire un hôpital en Chine, et des bâtiments. J'avais été en Chine il y a une vingtaine d'années, j'étais resté une semaine à Shanghai pour un festival, et j'avais vu en face de l'hôtel la construction de 5 étages en une semaine.
C'est absolument.
En 5 heures, ils avaient mis tous les échafaudages en bambou. Ça allait à une vitesse absolument incroyable. Et ils travaillent, 24h/24.
Ouais, avec un nombre d'ouvriers, j'imagine.
Oui, énorme. Il y avait un nombre. Enfin, c'était incroyable. Mmh. En 6 jours, il y a eu 5 étages de montée. J'en venais pas. Mmh. C'est hallucinant, la vitesse avec laquelle.
Et sinon, ça vous fait peur, ces affaires de SRAS, de coronavirus?
Alors, ça fait toujours peur, parce qu'évidemment, on a peur de l'épidémie, puis maintenant, avec les moyens de transport qui sont très rapides, heureusement qu'il y a la grève en France.
C'est vrai. À toute chose, malheur est bon.
Oui, à toute chose, malheur est bon. Donc, voilà, effectivement, c'est les virus se déplacent à une vitesse exponentielle, et malheureusement, on est confronté à ça.
C'est le journal inattendu de François Berléand. On marque une courte pause, et dans un instant, le mystère autour de l'enlèvement à Bagdad de 3 Français, d'un Irakien de l'association SOS Chrétien d'Orient. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL, avec François Berléand et Vincent Parisot.
4 collaborateurs d'une ONG française, SOS Chrétien d'Orient, 3 Français et 1 Irakien, sont donc portés disparus depuis lundi dernier à Bagdad. Des salariés expérimentés, précise cette association. Ils auraient été capturés aux alentours de l'ambassade de France, mais pour l'instant, aucune rançon n'a été réclamée. Alors évidemment, brise du génie, 5 jours après leur disparition, on en est toujours au stade des hypothèses. Qu'a-t-il pu leur arriver ?
L'hypothèse la plus probable, surtout avec les heures qui passent sans nouvelles, c'est évidemment l'hypothèse de l'enlèvement. Et là, 2 scénarios sont possibles. Celui de l'enlèvement par des miliciens chiites pro-Iran qui voudraient, vous savez, dans le contexte des tensions régionales entre l'Iran et les États-Unis, utiliser des otages occidentaux comme une monnaie d'échange à des fins de négociations politiques. On pense évidemment à l'objectif de ces milices d'obtenir le départ des troupes militaires américaines du pays. L'autre hypothèse, elle est plus sombre. C'est celle d'un enlèvement par un groupe terroriste affilié à l'organisation État islamique. On le sait, dans un pays, l'Irak, livré au chaos, où il n'y a plus d'État, les restes de l'organisation terroriste sont là, bien vivants, même si la ville de Bagdad n'a pas été frappée depuis longtemps. Et dans cette hypothèse, clairement, la négociation s'annoncerait beaucoup plus incertaine. Mais pour l'instant, vous le disiez, aucune revendication n'est parvenue aux autorités françaises.
Alors, Brice, ces 3 Français et cet Irakien appartiennent donc à l'ONG française SOS Chrétien d'Orient. Que sait-on de cette association ?
Alors, c'est une association qui affiche clairement ses objectifs. Son but, c'est d'aider les chrétiens au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Et selon la doctrine de cette ONG qui est affichée sur leur site internet, la voici, la vocation supérieure de la France, c'est de retisser des liens avec les chrétiens de la région. C'est une position qui vaut d'ailleurs à cette organisation quelques critiques. Parfois, elle est notamment taxée de radicale.
Merci Brice Dugénie pour ces précisions. Dans l'actualité également, cet homme et cette femme d'une 60aine d'années retrouvés morts, tués par balle hier soir sur le parking d'une résidence à Billy-Montigny dans le Pas-de-Calais. Une arme a été retrouvée sur place et toutes les hypothèses sont ouvertes. Je vous le disais dans les titres, 17 ans après la disparition de la petite Estelle Mouzin à Guermantes, la responsabilité du tueur en série Michel Fourniret fait de moins en moins de doutes. Une nouvelle audition de son épouse Monique Olivier, entendue par la magistrate chargée du dossier pendant 6 heures, a permis de préciser les soupçons, et elle affirme que Michel Fourniret avait fait des repérages avant l'enlèvement, et elle déclare qu'à ses yeux, c'est bel et bien son ancien mari qui a tué la fillette. Je vous vois réagir à cette info.
Non, quel homme monstrueux. Quand on est parent comme je le suis, on a toujours peur de tomber sur une espèce de malade mental comme Fourniret. Là, cet homme est... c'est affreux de rencontrer cet homme.
Et quand on est comédien, on imagine pouvoir jouer ce type de personnage qu'on décrit par ailleurs comme un monstre.
Oui. Alors c'est comme un... Nous, on est un peu comme des avocats.
On cherche toujours un peu de lumière.
Pour l'incarnation d'un rôle, même d'un... Moi, on me proposerait de jouer Fourniret, j'accepterais totalement. Et parce que j'essaierais de sauver cet homme, comme un avocat peut essayer de sauver cette... pas la tête, parce que maintenant, il n'y a plus une peine de mort, mais... on a besoin de voir... Cet homme a été aimé à un moment donné, peut-être par ses parents, peut-être par sa femme, etc. Il s'est marié, donc à un moment donné, il y avait peut-être de l'amour, et puis il a disjoncté. Et je sais pas comment il est arrivé à ça, mais ce mec est un fou furieux, mais après, faut qu'il reste soit en hôpital psychiatrique, soit en prison, mais jusqu'à la fin de ses jours.
Évidemment. Alors, avant votre reportage inattendu, deux mots de sport, du tennis. Je ne sais pas si vous aimez le tennis.
Oui.
Mon fils s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Ça sera dur, hein, prochain tour, parce que ça sera l'Autrichien Dominic Thiem, qui est cinquième mondial. Et puis du foot, vous aimez le foot aussi ?
Oui.
Bon, alors il n'y a pas eu de vainqueur hier entre Nice et Rennes, hein, partout. À suivre Marseille-Angers à 17h30. Et puis ce soir, je sais que vous serez à l'écoute du multiplex RTL, le Parisien, aujourd'hui en France.
Bah oui. Et demain, le PSG Lille quand même.
Et puis demain, le PSG. Voilà.
Oui, PSG Lille. À Lille, oui.
Gros match.
Moi, je suis parisien, donc je.
Gros match à Lille. Parce que les Lillois, ils sont difficiles à battre sur leur pelouse. C'est maintenant l'heure de.
Le reportage inattendu.
Ah oui, ce que vous nous avez demandé, ce reportage inattendu, vous avez voulu consacrer à l'écologie à Paris, aux choix, aux ambitions d'Anne Hidalgo sur la voiture dans la capitale. Je vous propose de l'écouter.
Oui, absolument.
Et puis ensuite, on réagit. Reportage signé Marie-Bénédicte Allaire.
Vous avez aimé les voies sur berge, vous allez adorer la ville du quart d'heure proposée par Anne Hidalgo. L'idée, c'est qu'on peut trouver à deux pas de chez soi les commerces, les services, les loisirs, mais aussi la convivialité et la solidarité.
Et puis la ville du quart d'heure, du point de vue de la transition écologique, c'est une ville où je me déplace plutôt à pied, en vélo et en transport en commun. J'ai pas besoin de ma voiture pour aller à un quart d'heure de chez moi, voilà.
Le concept est né dans les années 60 en Amérique du Nord. Plus récemment, Alain Juppé lui-même s'y est intéressé à Bordeaux. Et pour ses défenseurs, l'urgence climatique impose aujourd'hui de réduire les déplacements en voiture. Jean-Louis Missica, coordonnateur de la campagne d'Anne Hidalgo.
Oui, nous voulons faire un Paris 100% marchable et 100% cyclable.
Mais pour David Béliard, le porte-drapeau d'Europe Écologie Les Verts à Paris, il faut aller beaucoup plus loin.
Moi, je souhaite libérer Paris de la voiture. Il faut changer véritablement de modèle. Et je crois que cette aspiration-là à une autre ville, à une autre métropole, elle est largement partagée. Aujourd'hui, prendre sa voiture lorsqu'on habite en ville, lorsqu'on habite dans une zone qu'on dit dense, eh bien, c'est d'abord une contrainte et il faut proposer des alternatives.
Il propose de créer un tramway pour relier les gares SNCF entre elles, de récupérer des places de parking pour en faire des pistes cyclables. Et pour lui, la capitale doit aussi participer au financement des infrastructures dédiées aux habitants des banlieues.
Paris doit être ouvert, c'est pour ça que je milite moi pour un réseau métropolitain de vélo, le vélopolitain d'une certaine manière, pour qu'on puisse prendre son vélo, bah, par exemple si on habite à Arcueil, et venir à Paris sans craindre de se faire renverser lorsqu'il faut à un moment donné traverser le périphérique.
Mais quid, me direz-vous, de ceux qui ne peuvent vraiment pas se passer de voiture ? Jean-Louis Missica, de l'équipe Hidalgo, se veut rassurant.
Il ne s'agit pas d'interdire la ville aux voitures. Il s'agit de convaincre l'ensemble des Parisiens qui pourraient se déplacer autrement qu'en voiture, de le faire. Et par contre, bien évidemment, il est hors de question d'interdire le trafic automobile à Paris aux personnes qui en ont absolument besoin.
Il cible surtout les SUV qui circulent avec une seule personne à bord. Alors si vous en faites partie et que vous êtes vraiment réfractaire à la marche, au vélo, au transport en commun, voire au taxi, sachez que jusqu'en 2024, vous pouvez encore rouler au diesel à Paris, mais qu'à partir de 2030, il faudra impérativement passer à la voiture électrique.
Qu'on se le dise à partir de 2030, mais vous, la voiture électrique, vous y êtes déjà passé, vous, François?
Absolument.
Berger. Tout électrique.
Totalement électrique, je loue une voiture électrique.
Vous êtes vraiment un convaincu ?
Oui, je suis un convaincu, même si c'est un peu délicat de sortir de Paris et de faire de la route avec une voiture électrique, parce que c'est, le temps de charge est très très long, très cher. La question ne se pose pas, je parle moins de Paris. Si je vous ai demandé de faire ce reportage, c'est que je suis parisien. Je pouvais avant me déplacer en vélo, ça me posait pas de problème. Mais maintenant, il se trouve que je suis un peu plus vieux Il se trouve que Paris est la capitale de la France, que malheureusement, on est toujours dans une espèce de colbertisme qui fait que tout se passe.
Il faut toujours passer
à Paris,
par Paris.
Voilà. Et que personnellement, comme je suis comédien, il y a des théâtres effectivement qui sont un quart d'heure d'où j'habite, mais la plupart malheureusement sont de l'autre côté, donc c'est pas du tout un quart d'heure à pied, c'est pas du tout un quart d'heure en vélo.
Et vous l'avez bien vécu cette transformation de la ville de Paris, les voies sur berge?
Non, c'est, encore une fois, je suis passé sur les voies sur berge il y a pas longtemps. Enfin, j'étais en scooter, je me suis arrêté au pont Bir Hakeim. Et j'ai fait une photo de la voie Pompidou où les voitures sont plus à cul, et il y a un cycliste. Un cycliste
sur la
Vasseur-Berge. Voilà. Donc c'est, là, je pense qu'il y a quand même un petit peu des limites, mais bon, on les dépasse allègrement avec la nouvelle municipalité. Pardon.
Bien sûr.
Là, ce qu'on a entendu, quand même, c'est Anne Hidalgo qui, je ne suis pas tout à fait contre la voiture, mais enfin bon, voilà. Ouais. Donc tout doit être un quart d'heure. Mais encore une fois, non, tout n'est pas un quart d'heure dans Paris, pardon, mais on parle de la capitale de la France. On parle, parce qu'on nous parle toujours d'Amsterdam et de Berlin.
Mais ce n'est pas les mêmes dimensions.
Voilà, c'est pas la même chose. Amsterdam, c'est une toute petite ville. Et surtout, Berlin, ça a été rasé pendant la guerre. Donc il y a des grandes avenues, donc il y a des pistes cyclables, c'est pas un problème. En France, à Paris, pardon, c'est pas tout à fait ça. Et puis il y a des montées. Il y a des montées à Paris. Il n'y a peut-être pas Amsterdam.
Voilà. Et pour le vélo, c'est moins facile. Bon, en même temps, il est important de ne pas polluer l'atmosphère.
Bien
de
sûr.
Ne pas se
on
polluer
est bien
l'atmosphère.
On est bien, bien d'accord.
Comme aurait dit Louis Jouvet à Arletty.
Alors rien, j'en ai assez. Puis saisi, je m'asphyxie. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Ça, c'est un petit bijou, c'est vous qui nous l'avez demandé.
Oui, c'est magnifique.
Ouais,
c'est magnifique. C'est extraordinaire.
A tout de suite avec François Berléand. L'esprit de famille sort sur les écrans mercredi prochain. On en parle dans un instant. A tout de suite.
Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
François Berléand est l'invité du journal Inattendu sur RTL.
12h30, 13h30.
Le journal Inattendu sur RTL avec François Berléand et Vincent Parisot.
Bon, allez, s'il te plaît, sois gentil, 20 ans.
Oh là là, tu me manies. Si je m'en vais, tu vas m'oublier.
Y a pas de danger.
Bon, là, on dit ça, mais ça va vite. Tu sais, les choses s'effacent. La voix, les expressions, le visage. Tu veux pas m'oublier?
Bon, t'as fini ton numéro? Puis tu pourrais au moins t'habiller. Pourquoi t'es en robe de chambre?
Parce que je suis chez moi. Puis, je te rappelle que c'est toi qui me vois comme ça. Tu devrais leur dire la vérité.
Quelle vérité? Que je parle à mon père mort parce que j'arrive pas à accepter l'idée qu'il soit plus là. Papa, s'il te plaît, tu voudrais pas aller faire une petite sieste?
Mais je suis mort, j'ai plus besoin de faire la sieste.
Je sais même pas pourquoi je parle avec toi, t'as toujours été de mauvaise foi de toute façon.
Voilà, c'est un petit extrait de L'Esprit de Famille d'Éric Bénard qui sort mercredi avec à vos côtés François Berléand, Guillaume de Tonquédec, Josiane Balasco, Isabelle Carré, Jérémy Lopez, Marie-Julie Bob. Alors, on comprend bien l'idée, vous êtes mort et votre fils Guillaume de Tonquédec vous voit et vous entend, c'est ça?
Voilà, c'est ça, et il me parle.
Et il vous parle.
Et il me parle.
Et vous lui répondez.
Et je lui réponds. Ouais. Ce qui fait qu'en fin de compte, je suis une projection mentale de mon personnage et lui en fin de compte fait les questions et les réponses, mais il fait des questions à son père et les réponses évidemment puisque je suis mort sont faites par lui, quoi. C'est ce qu'il aurait aimé entendre ou c'est ce qu'il me dit, de toute façon il aurait dit ça et c'est pas autre chose.
Ce qui est drôle dans cette scène, c'est que vous évoluez entre des draps qui sèchent au vent, mais le fantôme que vous êtes ne porte pas de draps blancs, mais plutôt des chemises hawaïennes de très bon goût, quand ce n'est pas des robes de chambre d'ailleurs.
Voilà, là en l'occurrence c'est une robe de chambre dans cette scène-là.
Il en change tout le temps d'ailleurs.
Voilà, je change de costume tout le temps. Il se trouve que le papa d'Éric, Jacques Bénard, qui était un réalisateur, était aussi un dandy. Et donc, il avait beaucoup de costumes, de vestes, de pantalons, de chemises. Et donc, il changeait tous les jours de vêtements entièrement. Donc,
c'est
un clin d'œil, un hommage à son père.
Ouais, elles sont très belles, ces chemises à
hawaïennes. Oui, j'adore.
Ce que montre aussi le film, c'est qu'après la mort, les vivants règlent aussi leur compte avec leur chair disparue. On voit bien que dans cet esprit de famille, le fils, comme la femme d'ailleurs, Josiane Balasco,
absolument,
en ont gardé un peu sous le pied, comme on dit.
Oui, les fils, parce que l'autre aussi, il ne me voit pas, mais on parle quand même de l'homme disparu. Il se trouve que le père, évidemment, n'a jamais été là, puisque c'est un reporter, photographe sportif, et donc...
Tout le monde lui en veut un peu.
Oui, mais je crois que la paternité n'intéressait pas plus que ça, et qu'il partait, justement, il avait tendance à partir un petit peu loin pour éviter d'avoir des comptes à rendre à sa famille. Et le fait est que c'est sa femme qui a élevé ses enfants, et que lui, quand il revient à la retraite, il meurt tout de suite, comme ça, il a plus le problème ne se pose plus. Mais, justement, c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que évidemment ça pourrait être
mais on rit beaucoup.
Voilà, mais on rit. Et Éric avait Éric Bénard, le réalisateur, a écrit son film à la disparition de son père.
Ouais.
Et c'était des deux hommes qui s'aimaient, mais vraiment, mais de manière absolument extraordinaire. Et évidemment, pour faire un film avec des gens qui s'aiment vraiment profondément pendant une heure et demie. Donc il faut créer des antagonismes. Donc il a créé ces antagonismes pour faire que le film soit évidemment à la fois émouvant et à la fois...
Voilà, c'est ça, c'est des rires et des larmes. C'est amusant parce que dans la pièce Encore un instant de Fabrice Roger Lacan, vous avez joué l'an dernier, vous interprétiez déjà un homme décédé que votre veuve entendait et voilà. voyait. Hein. Ça vous plaît de jouer les Maccabées ?
Bah oui, oui, et puis je m'entraîne, parce que ça va arriver vite. Oui, ça va arriver vite, donc je me dis, voilà, je me suis entraîné à ça pendant un an. Maintenant, je suis psychanalyste, donc je fais des psychanalystes.
Ça sort mercredi, L'Esprit de Famille, on va évidemment y revenir. On va marquer une pause avant 13h, mais avant cela, ça c'est cadeau pour vous. Je crois que vous connaissez...
Quelque chose là.
Ben bien sûr.
Quand j'avais entendu ça la première fois, ça n'était pas encore sorti en France. Donc c'était le papa d'une amie chez qui j'étais qui a mis le disque et qui a dit voilà, c'est le dernier disque des Beatles. Ouais. Et ça commence en français.
Oui, bien sûr.
Donc c'est les Beatles, le dernier disque des Beatles. Et à ce moment-là, j'étais en troisième. J'ai dit, je parle anglais.
Je comprends l'anglais. Vous étiez déjà le fils de l'homme invisible, ça on en reparlera peut-être. Et en plus, voilà. Vous compreniez l'anglais. Voilà. François Berléand, le journal inattendu, jusqu'à 13h30.
Le journal inattendu sur RTL avec François Berléand et Vincent Parisot.
Il est 13h01.
Le journal inattendu de François Berléand.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Avec dans l'actualité de ce samedi, la détection donc de 3 cas de coronavirus en France, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. Ils sont tous les 3 hospitalisés à l'isolement. Ils avaient tous séjourné en Chine. Il est demandé aux malades potentiels d'appeler le 15, de ne surtout pas se rendre aux urgences pour éviter toute propagation de l'épidémie. En Chine, le bilan est pour l'instant de 41 morts, 1300 personnes contaminées, 56 millions de Chinois sont placé en quarantaine. Toujours aucune nouvelle des 3 Français et de l'Irakien, membre de l'organisation SOS Chrétiens d'Orient, enlevé à Bagdad. Aucune rançon n'a été pour l'instant réclamée. Ils auraient été kidnappés près de l'ambassade de France. L'étau se resserre sur Michel Fourniret, 17 ans après la disparition à Guermantes de la petite Estelle Mouzin. Son ex-épouse Monique Olivier assure que selon elle, c'est bien lui qui a tué la fillette. Le football, match nul hier soir entre Nice et Rennes, un partout. Marseille-Angers à 17h30. Ce soir, le multiplex RTL Le Paris aujourd'hui en France à partir de 19h30 et François Berléand suivra évidemment le match Lille-Paris-Saint-Germain de dimanche soir parce que vous êtes un grand fan du PSG, un grand supporter du PSG.
Je suis parisien surtout.
Bah oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en a parlé également pour la voiture.
Donc voilà, c'est vrai que je suis plus pour PSG que
le
truc.
Mais vous aimez le tennis et le rugby. Bah alors moi je vous parle de tennis pour vous dire que Gaël Monfils s'est qualifié pour les 8e de finale de l'Open d'Australie mais que ça sera dur face à l'Autrichien Dominic Thiem qui est numéro 5 mondial. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, mesdames et messieurs, le monsieur météo d'RTL s'appelle François Berléand.
Météo partagé entre grisaille et soleil sur la moitié nord du pays cet après-midi. Par endroits, les brouillards de la matinée ne se lèveront pas. Et oui, notamment entre les Hauts-de-France, la Normandie et le bassin parisien. La moitié sud aura un temps plus ensoleillé. Malheureusement, sauf en Languedoc, où quelques pluies se produiront jusqu'à ce soir. Les températures iront de 5 à 16 degrés entre Dijon et Ajaccio. Il fera 7 degrés à Paris, à Dunkerque et à Reims.
Donc quand vous n'êtes pas à Paris, vous dites « je suis parisien », mais quand vous n'êtes pas à Paris, vous êtes dans quel coin ?
Je serai plutôt dans le Pays Basque, où il pleut beaucoup aussi.
Oui, c'est vrai, il pleut assez souvent. C'est le journal inattendu de François Berléand. Tiens, on poursuit.
Allez, vas-y, va. Récite-moi Bébert l'intrépide, je connais pas. Quand on a cravaté sous les grands pieds, t'as fait un beau rapport, t'as toujours été fort en rédac. Et tous les deux, on lui doit quelque chose aux grands pieds. Toi de l'avancement et moi 6 mois d'hosto. Mais ce matin, j'étais bon pour la médaille posthume, alors tu m'excuseras si j'ai quitté la piste.
Bah dis donc, ça t'a drôlement secoué, ce tombé. Moi, jusqu'alors, je t'avais vu te dérober qu'une fois dans la cour du patronage. Tu te souviens quand le petit rouquin t'a demandé de sortir et que t'es pas sorti?
C'est bonne blague, je sautais sa frangine.
Ah bah tu vois, t'avais une raison. Alors t'en avais peut-être une autre ce matin.
Dis donc, Louis. Tu crois pas que tu pousses un peu? Où on va?
Bah, je te le demande.
Ah, mais si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière?
À quoi tu penses?
Je
pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
J'espère que tu aimes. C'est
le Pacha,
bon,
fameuse réplique de Gabin avec Robert Dalban. Vous l'avez choisi. Pourquoi?
Parce que, ben pour ça.
Parce que vous pensez à cette réplique quand vous discutez temps, avec quelqu'un.
Oui, oui, je remettrai l'écran sur Ambit, t'auras pas fini de tourner. Voilà, ça c'est du Audia, c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est vrai que c'est une belle image, je trouve.
C'est vrai que vous avez souvent l'image du râleur bougon.
Parisien, quoi.
Parisien, qui dit facilement ce qu'il pense.
Oui, malheureusement, des fois, ça me. Ça, c'est le côté scorpion. Vous voyez, c'est le côté taureau. Je dis ce que je pense et après, je me.
Parfois, vous regrettez.
Des fois, oui, bah, évidemment.
Quand vous commentez l'actualité.
Voilà, c'est ça, quand je commente l'actualité, quelquefois, après, je. Oui, bien sûr, évidemment, ça... il y a un tour de bâton immédiat. Et bon, voilà, c'est comme ça. Tout à coup, des choses m'énervent et puis ça sort et puis après, je regrette. Ouais. Mais c'est pas que je regrette, d'ailleurs, je regarde pas. Mais après, je m'explique. Mais malheureusement, c'est trop tard. Mais par contre, après, j'ai beaucoup parlé avec certains gilets jaunes et en fin de compte, on se quittait en s'embrassant. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on a été d'accord sur. Moi, c'est toutes les dérives qui ont eu lieu qui m'ont choqué profondément. Et voilà. Bon, enfin, c'est.
Alors, on va accueillir maintenant votre invitée, Dominique Beyla, cofondatrice, directrice générale de l'association Petit Prince. Alors, pour expliquer et illustrer son action avec cette formidable association, comme nous sommes exactement un mois après Noël, je vous propose un petit retour en arrière. C'était un reportage diffusé sur RTL dans un avion direction le pôle Nord avec à bord 50 petits lutins.
C'est au milieu des nuages à bord d'un Airbus rempli de petits lutins.
Mesdames et messieurs, tous les enfants, bonjour, ici votre commandant de bord. Et normalement, ce vol-là, il s'en va vers le pôle Nord et on va espérer trouver le Père Noël. Donc, chantez très fort.
Au-dessus du pôle Nord, après avoir croisé un ou deux rennes, un vieil homme avec une longue barbe blanche et habillé en rouge apparaît dans l'avion.
Fais un petit bisou à Père Noël.
Croyez pas du tout comment il était comme ça.
Je lui ai donné ma liste.
Une parenthèse féerique pour les enfants loin de l'hôpital. Le temps d'une rencontre magique au milieu des nuages avec le Père Noël.
Bonjour Dominique Beyla.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation de François Berléand. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas votre association Petit Prince, ce reportage qui envoie les enfants, cet avion qui emmène les enfants plutôt au pôle Nord, c'est une belle illustration de ce que vous faites.
Ben, c'est fabuleux de partager cet événement avec la fratrie aussi, et puis les parents, parce qu'il y a des émotions qui sont extrêmement fortes, et donc j'ai eu la chance de le vivre, et c'est fabuleux pour eux.
L'association a été créée en 1987, aujourd'hui je crois que vous avez exaucé plus de 7000 rêves, parce que c'est ça l'idée, c'est d'exaucer le rêve d'un enfant malade. Voilà, quel but merveilleux, et comment c'est arrivé, comment ça vous est venu?
Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est tout un travail d'équipe, ça c'est important. Donc, à partir du moment où vous avez l'idée d'accompagner l'enfant tout le temps que dure la maladie, et on va mettre en place, ce qui est important, c'est qu'on va mettre en place des rêves à nouveau pour les enfants en fonction de l'évolution de leur pathologie. Aujourd'hui, les pédiatres ont des formations globales, c'est-à-dire... Au-delà des soins techniques, il y a aussi la prise en charge de l'enfant et de partager avec les parents qu'est-ce qui plaît à l'enfant, de telle sorte que l'accompagnement va être beaucoup plus précis et prendre en charge une globalité.
Ça veut dire une équipe dédiée qui travaille au sein de l'hôpital, ça veut dire la reconnaissance du corps médical aujourd'hui.
Oui, des partenariats, maintenant des partenariats avec des équipes soignantes, de telle sorte que, comme je le disais, ça fait partie d'une globalité de soins. Moi, j'ai eu la chance, suite à un petit problème à une jambe, d'avoir cette notion dès l'âge de 7 ans, de se projeter dans l'avenir, de réussir, de se battre pour mettre de côté soit la maladie ou un handicap, de telle sorte en tout cas d'être un enfant avant tout et ne pas être qu'un malade.
Et mais voir un de ses rêves exaucés, ça aide à, alors peut-être pas à guérir évidemment, mais à se sentir mieux émotionnellement, voire physiquement.
Alors déjà, il faut savoir que ça va redonner l'identité à un enfant parce qu'il a ses passions. Et quand vous avez les pédiatres aujourd'hui qui s'intéressent aussi à ce qu'aime l'enfant, les soins seront facilités, seront plus faciles. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises, en 32 ans, des enfants accepter de nouveaux traitements, malheureusement des amputations, parce qu'il y avait quelque chose, c'est-à-dire c'était s'intéresser à tout ce qui peut le passionner, à lui permettre de mettre la maladie de côté pour exister.
Et vous, François Berléand, vous êtes très actif dans cette association.
Mais je suis un des parrains, je ne suis pas tout seul, bien heureusement. Sûr. Et j'ai rencontré Dominique à l'occasion des Femmes en Or. Et il se trouve qu'il y avait un reportage qui avait été fait par l'association. Et j'ai pleuré. Donc il se trouve que j'étais président de cette soirée, ouais. Et j'ai pleuré. Et j'ai dit, écoute, voilà, moi je suis là, si vous avez besoin de moi, je serai là toujours. Voilà, j'ai fait un chèque parce qu'il fallait faire un chèque. Et puis après, j'ai dit, voilà, comptez sur moi, parce que... voilà. Et puis quand j'ai fait le chèque, j'ai dit, bah voilà, pour une fois, voilà, j'ai l'impression d'avoir été bon. Donc Dominique m'a rendu bon. Comme elle est cruelle.
Non, mais ça c'est pas mal cruelle, parce que
c'est gentil.
Bon, François Berléand. Non, moi j'ai quand même une question parce que je le disais, 7000 rêves. Vous avez une dimension nationale. Vous existez depuis 1987. Et en même temps, j'imagine que pour faire ça, pour réaliser des rêves de chaque enfant malade, il faut garder une structure un peu familiale. Comment vous arrivez à marier les deux?
Alors, tout d'abord, on a des liens, l'association Petit Prince a des liens depuis 30 ans, avec progressivement des services pédiatriques sur toute la France. Aujourd'hui, on est en lien avec 150 services pédiatriques. Donc, ça nous permet de créer un vrai partenariat et effectivement de garder cet esprit familial, sans aucune prétention aussi, avec des équipes soignantes. Parce que quand on a le retour d'équipes soignantes qui nous disent, mais grâce à l'action de l'association Petit Prince, on est plus facilement en contact avec nos petits protégés, nos petits patients, bah ça crée une énergie qui fait que l'enfant peut être mieux soigné parce que tout est pris en charge, on l'entend, on l'écoute. Alors, il s'exprime.
Vous avez de nombreux parrains, des artistes qui vous aident. François Berléand vous a fait un chèque, mais c'est parce qu'il est assez ancien monde. Mais si on veut vous aider, on va plutôt sur Internet.
Alors moi, j'en profite pour remercier François Berléand qui est à nos côtés. Si, François, parce qu'il est à nos côtés. À chaque fois qu'on le sollicite, il est là. Et c'est tellement important d'avoir des personnes qui sont, d'une part, profondément généreuses, parce qu'il ne le dit pas, c'est quelqu'un d'altruiste. Et donc, ça porte l'association.
Et donc on vous aide sur Internet.
Oui, alors faut pas hésiter à aller sur notre site, donc de l'association Petit Prince au pluriel, c'est important. Et effectivement, on a besoin de bénévoles dans certaines équipes, et à partir de là, ça renforce toute une équipe d'être nombreux et puis de réaliser plus de 500 rêves par an.
C'est incroyable.
Parce que j'étais bouleversé par c'était pas un défi énorme, mais c'est pour vous dire que bon, il y a des enfants malades, il n'y a pas non plus des rêves extraordinaires, il y a aussi des rêves. L'enfant qui était malade voulait simplement faire un tour dans un camion poubelle. Je peux vous dire que vous voyez le reportage, et d'abord il sourit, mais nous on pleure, parce que là c'était extraordinaire.
Et ça nous donne des frissons, effectivement. Vous devez en donner à tous ceux qui vous aident, qui vous aiment. L'association Petit Prince au pluriel, merci beaucoup Dominique Bayle, merci beaucoup d'être venu pour en parler sur RTL.
Merci de m'avoir accueilli.
Et puis,
merci à toi Dominique.
On va marquer une courte pause, évidemment vous pouvez rester si vous le souhaitez. On va parler de la carrière de François Berléand dans un instant, avant de lui faire une petite surprise. À tout de suite.
Ah, attention, la surprise.
Le journal inattendu de François Berléand avec Vincent Parisot sur RTL.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps.
On n'arrive pas à le couper, forcément, Aznavour. Hier encore, pourquoi ce choix? Parce qu'hier encore, vous aviez 20 ans, François Berléand.
Pas du tout, c'est parce que cette chanson m'a toujours plu. La première fois que je l'ai écoutée, je avais 12-13 ans. Et puis, moi j'aime tellement la voix d'Aznavour, je n'écoutais même pas les paroles. Et maintenant, les paroles résonnent un peu, mais... Enfin, résonne vraiment. Mais jusqu'à il y a peu de temps, je me laissais bercer. J'écoutais pas trop les paroles des chansons. Moi, comme j'étais un fou de la musique britannique, je parle pas anglais.
C'était la musique qui comptait.
J'entends la musique. Pendant très longtemps, à part Brel, j'écoutais jamais les paroles des chanteurs.
En tout cas, à 20 ans, c'était en 72, vous aviez 20 ans. En 72, vous cherchiez encore, je crois, après une école de commerce.
Oui, oui.
Il faut dire, et vous le racontez d'ailleurs très bien dans votre livre Le Fils de l'Homme Invisible, votre biographie parue en 2006, que vous aviez un peu développé.
Oui, c'est un roman. C'est un roman.
Bien sûr.
Enfin, c'est ma vie.
C'est quand même une histoire au départ.
Mais oui, c'est mon histoire.
Il y a eu un petit dédoublement de la personnalité à l'adolescence, quand même.
Ah ben, un petit peu, beaucoup, oui. De la schizophrénie, quand même. On peut parler d'un cas pathologique un peu important, oui.
C'est aussi ça qui a pu vous amener au théâtre.
Je pense que j'ai pris de l'avance par rapport à la concurrence. Le fait d'avoir un vrai dédoublement de personnalité, c'est vrai que je me suis mis à avoir une autre vie que la mienne.
Et puis le cinéma arrive, la plupart du temps des petits rôles.
Oui,
hein,
voilà.
Vous le viviez comment ça d'être en arrière-plan ?
Parfaitement bien.
C'est vrai ?
Oui, parce que moi je venais à l'époque je faisais du théâtre subventionné. Dans le théâtre subventionné j'étais en troupe. Soit je faisais des premiers rôles, soit je faisais des tout petits rôles. Et la question ne se posait pas. Et quand on me proposait du cinéma, j'étais content. Parce que tout à coup, je pouvais gagner un peu d'argent quand même, un peu plus qu'avec le théâtre où j'étais payé. Bon, moi, j'ai presque pas eu de chômage, mais je vivais chichement. Mais à l'époque, chichement, c'était.
Vous ne cherchiez pas à être en haut de l'affiche.
Du tout, ça m'intéressait pas.
Et puis en 97, vous avez 45 ans. Benoît Jacquot vous offre quand même votre premier rôle important dans Le Septième Ciel. Vous êtes un médecin hypnotiseur.
Oui.
Je veux que vous vous détendiez. En fixant l'objet et en écoutant ma voix, vous vous sentez de plus en plus détendu. Vos pieds sont détendus, vos jambes, vos bras, vos mains sont détendus. Écoutez bien ma voix. Vous pensez au sommeil et à rien d'autre. Une chaleur agréable vous pénètre. Vos paupières se font lourdes, lourdes.
On va arrêter là parce qu'on va s'endormir. Mais c'est vrai que vous avez une très bonne voix d'hypnotiseur, en tout cas.
Oui. Alors, c'est assez curieux parce que dans ce rôle, je fais effectivement une espèce de psychanalyste, hypnotiseur, etc. Mais c'est une projection mentale. Ouais. Enfin, quoi, j'ai complètement oublié, mais enfin, quoi, je suis un fantôme, là.
Oui, c'est vrai.
Enfin, quoi,
vous n'arrêtez pas de jouer des fantômes. Mais je me demande si c'est vraiment François Berléand qui est avec nous.
Peut-être mon frère jumeau. Bon savoir.
Ensuite, il y a le César du meilleur acteur dans un second rôle dans La Petite Entreprise. De Pierre Jolivet. Et puis en 2002, premier grand rôle quand même.
Embrasse-moi.
Quoi ?
Embrasse-moi, je te dis.
Merde.
Mais si. Allez, juste un petit bisou.
Oh, mais embrasse-moi, merde !
Hein, mais c'est qui le ferait, hein ?
Non.
Mais si !
Non, je savais que vous plaisantiez.
Mais non, mais vous alliez le faire.
Non, vous déconnez, je savais.
Ah, vous êtes une petite tarlouse.
Mais non,
mais si !
Mais pas du tout.
Mon idole. Alors, personnage détestable, quand même.
Détestable.
Ah bah oui, franchement, on avait envie d'y mettre des claques.
Hein. Absolument. Mais ce qui est très drôle, c'est que j'avais fait beaucoup d'interviews avant, parce que bon, avec le César, j'étais souvent sur des plateaux. Et à partir du moment où j'ai fait ce film, quand j'étais avec les animateurs de télévision, les gens avaient peur de moi. C'est ça qui est extraordinaire. C'était la première fois que ça arrivait.
Voilà. C'est vrai que votre professeur d'art dramatique, lorsque vous aviez 20 ans, vous avez dit « si un jour vous êtes connu, ce ne sera pas avant 40 ans ».
Ah oui, Balachova, oui. Tania Balachova m'avait dit ça. Mais j'avais un physique, si on regarde les films, les petites apparitions, j'avais un physique tellement banal que je ne pouvais pas... on ne me voyait pas, quoi. C'est invisible, voilà. Invisible.
Le fils de l'homme invisible.
Le fils de l'homme invisible,
encore là.
Continuez.
Éric Orsenna était à votre place la semaine dernière, il a une question pour vous.
Ah. Bonjour, monsieur Berléand. C'est Éric Orsenna.
Bonjour.
Alors, je vais vous dire, c'est pas une question, c'est un rêve. En fait, c'est deux rêves. Le premier rêve, j'aimerais faire un film avec vous. Le deuxième rêve, c'est qu'on écrive un livre ensemble. Parce que vous êtes un humain humain. Et donc, j'aurais beaucoup à apprendre d'humanité sur un humain comme vous. Au revoir, monsieur Berléand.
Un humain humain.
Ah ben écoutez, ça me va droit au cœur.
Ouais.
Voilà.
Ça fait plaisir.
Oui, ça fait très très plaisir. Parce que, dis donc, j'ai une grande gueule, je suis un
rabat, je peux vous dire qu'il était là, et c'est une grande sincérité. Hein, c'est avec une grande sincérité qu'il a dit ça, il y tient vraiment.
Eh ben écoutez...
Et parce qu'il vous trouve profondément humain.
Eh ben écoutez, on le fait demain.
Bon ben voilà, monsieur Orsenna, si vous nous écoutez...
Voilà, si vous nous écoutez, je parce que j'ai une grande admiration pour vous, et... voilà, ben si vous écoutez, même si vous n'écoutez pas, si quelqu'un peut faire le message, moi je, alors avec grand plaisir.
Et vous pouvez commencer à écrire et à préparer les caméras. On marque une courte pause dans un instant. François Berléand, on vous a préparé une petite surprise. À tout de suite.
Oui.
Le journal inattendu sur RTL
avec François Berléand et Vincent Parizeau.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout, il y a de la joie.
Il y a de la joie à traîner, une chanson qu'il a écrite en 1936 alors qu'il est à la caserne, qu'il effectue son service militaire. Il ne devait pas y avoir trop de joie là.
Oui, et puis avec ce qui se passe en plus dans le monde, c'est pas Hitler, tout ça, etc. C'est pas simple, et il écrit quand même.
Pourquoi vous avez choisi ça pour cette joyeuse naïveté?
Oui, mais parce qu'il y a malgré tout dans la vie qu'on vit tous les jours, il y a quand même de la joie, heureusement. Et il faut penser à ça, parce que ça c'est important d'être optimiste, parce que si on est toujours pessimiste, je peux vous dire que la vie est très 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 difficile et maussade.
François Berléand à l'affiche de L'Esprit de Famille, le film d'Éric Bénard qui sort mercredi. Avant de parler encore une fois peut-être de votre carrière, vous vouliez évoquer le don de moelle osseuse. Pourquoi ça ?
Parce que c'est important.
Non, mais évidemment.
Parce que les gens ne pensent pas à faire ce don-là. Et ça sauve vraiment des vies, des cancers, des
On imagine que c'est lourd. Alors oui, c'est un petit peu plus lourd, c'est une prise de sang.
Mais c'est pas si lourd que ça. Moi, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Ça s'appelle les défis de Panacée, P-A-N-A-C-E-E. Alors, il y a certainement un site internet, mais voilà, au moins prendre conscience de ça, à défaut de donner mais au moins prenez conscience, et puis peut-être que, voilà, vous y arriverez au fur et à mesure.
Eh ben, c'est dit. Tiens, on a parlé de votre carrière jusqu'à présent. La suite, alors, je sais que deux films sont annoncés. Lucky, c'est ça ?
Oui, absolument. Lucky et La Bonne Épouse.
Et puis La Bonne Épouse. Et il y a des tournages de prévus ?
Oui, il y a des tournages de prévus. Alors, je vais faire les Tuches 4.
Non.
Oui, mais toute petite participation. Ah bon. Parce que j'aime beaucoup Olivier, notre metteur en scène. Et voilà, c'est pour jouer en plus le Pierre Noël. Voilà.
Vous l'aimez beaucoup ? Oui. Bonjour Olivier Barou.
Ah bah tiens.
Oui, bonjour François. On n'a pas signé encore le contrat, hein, François. Ah. On s'est pas mis d'accord encore sur l'argent et tout, donc c'est pas sûr encore que ce soit toi.
C'est pas signé, même un tout petit rôle, donc ça sera peut-être pas payé très cher.
Moi, je savais même pas que c'était toi, parce que là pour le coup c'est inattendu. Et donc toi, je te fais déjà, je parle de toi. Non,
mais Olivier Barou, qu'on avait reçu ici même en avril. Donc les Tuches 4, le tournage va commencer, Olivier.
Oui, nous commençons le 10 février avec toute la famille et François Berléand et Michel Blanc et puis plein d'autres acteurs. On commence le 10 février pour une sortie prévue le 9 décembre. Et je voulais dire aussi que, enfin, surtout rappeler que vous le savez pas, mais François, en tout cas, je l'avais déjà appelé pour les Tuches 3. Je lui avais proposé le rôle de Donald Trump, mais malheureusement, ça a été enlevé du scénario à un moment donné. C'est dommage parce que
c'est vrai,
j'aurais adoré le faire. C'était une journée de tournage, hein, c'était rien, mais j'aurais adoré le faire parce que c'est vrai que c'est très facile à faire Trump.
Voilà, une confrontation entre Jeff Tuche, le président de la République française, et Donald Trump. Et ça parlait beaucoup de cheveux et de coiffure. Et malheureusement, on a été obligé de l'enlever, voilà, pour plein de raisons. Mais voilà. Donc là, je suis très, très content que François fasse partie de l'aventure dans les Tuches 4. Il va jouer un menuisier qui va filer un coup de main, voilà, dans le film à Jeff Tuche et à Pépé Gouzelet. Ouais.
Et qui s'appelle Pierre Noël, quand même.
Il s'appelle Pierre Noël.
Voyez, Pierre Noël, le menuisier. Parce que ça se passera à Noël, c'est ça?
Voilà, ça se déroule pendant les périodes des fêtes et Noël, là ça a été dit dans la presse, donc je peux en parler. C'est en gros l'histoire, c'est les Tuches contre la grande distribution et les plateformes de distribution telles Amazon ou d'autres encore. Donc voilà, c'est un peu une guerre entre le Noël traditionnel et les Noëls où on peut tout commander facilement maintenant avec son téléphone. Et Jeff Tuche, lui, on ne sait pas trop, mais on a l'impression qu'il croit encore au Père Noël, donc il veut que ça continue. Quoi, voilà.
Bon, en tout cas, tous les fans doivent attendre ça vraiment avec impatience. Et pourquoi François Berléand ? Parce qu'il a une bonne tête de menuisier, il a la barbe du Père Noël.
C'est un bon comédien, ça tout le monde le sait depuis longtemps, et puis moi ça fait très longtemps que j'avais envie de retravailler avec lui, parce qu'on avait fait un film ensemble qui s'appelait Entre Amis sur un bateau, on a passé du bon temps en studio.
Oui, et là, visiblement ça lui rappelle quelques bons souvenirs, hein, je peux vous dire.
Oui, on l'a attaché avec des câbles le long d'un bateau, on l'a aspergé de centaines de milliers de litres d'eau avec Daniel Auteuil et avec Gérard Jugnot pendant des semaines et des semaines, et donc voilà, et je garde de bons souvenirs de ce tournage et j'ai envie de recommencer, voilà.
Ouais, j'imagine. On vous voit bientôt, alors à Noël prochain, en Pierre Noël.
Voilà.
Pierre Noël, ouais, le
exactement.
Menuisier.
Voilà, tout à fait.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas de ce coup de fil, Olivier Barou. On va vous suivre.
On espère
vous recevoir évidemment à cette occasion et très bientôt encore dans le journal Inattendu. Merci beaucoup François Berléand.
Je voudrais dire un mot sur Olivier parce que évidemment il ne le dirait, il n'aurait pas pas dit, mais c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup d'associatifs.
Ouais.
Et c'est une très très belle personne, voilà, comme Dominique.
Et donc Les Tuches 4, ce sera le 9 décembre sur les écrans. En attendant, on va se précipiter voir L'Esprit de Famille.
Oui, parce que ça, c'est vraiment un bon film. Non, mais on n'en a pas parlé assez.
Excusez-moi, je ris, mais c'est...
Ce qui a quelque chose, c'est que ce film, on sort, on a pleuré, on a ri, et en fin de compte, on appelle ses parents, si
parce
on les
a encore. On passe un moment très fort, et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on rit aux éclats, et puis parfois, effectivement, l'émotion vous prend et les yeux se mouillent. Mais c'est ça le cinéma.
Eh oui.
Et c'est ça le
et c'est la vie aussi.
Et c'est ça aussi la vie. Donc pour voir la vie, un grand film, L'Esprit de Famille d'Éric Bénard avec François Berléand, mais aussi Guillaume de Tonquédec et Josiane Balasco. Allez-y à partir de mercredi. N'oubliez pas évidemment non plus Les Petits Princes qui sont venus nous voir dans cette émission. Merci beaucoup. Dans un instant, ce sera un confidentiel consacré à Stanley Kubrick avec Jean-Alphonse Richard. À samedi prochain.
RTL, le journal inattendu.